Bonjour à tous, bienvenue dans notre débat économique, l'économie en VO sur la web TV, la bourse et la vie.com. Comme à chaque fois dans notre magazine, on va parler avec des dirigeants opérationnels d'entreprise pour parler de la stratégie, comment ils envisagent l'avenir avec la situation économique du moment. Et puis on parlera bien sûr de cette situation des marchés financiers. Nos trois invités pour en parler dans ce magazine, Arnaud de Rouget, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes donc un ancien gérant, très ancien depuis peu, hein, puisque vous étiez encore sur les marchés. Il y a quelques semaines, vous avez vécu ce début de crack, vous l'avez laissé en cours, mais on en reparlera ensemble sur votre analyse de la situation. Et puis nos deux invités dirigeants opérationnels, Daniel Harari, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Lectra, spécialiste de la conception assistée par ordinateur pour les machines notamment qui servent à découper le textile, hein, les produits textiles, et puis aussi pour l'automobile. On verra comment se porte votre entreprise et les perspectives. Et puis Pierre-Emmanuel Tétaz, bonjour.
Bonjour.
Votre entreprise s'appelle Concur, c'est une entreprise du Nasdaq.
Oui.
Vous êtes le responsable pour la France de cette entreprise qui s'occupe de dématérialisation, notamment pour les voyages, les notes de frais. Alors en ce moment, j'imagine que des entreprises peut-être vous sollicitent. On en parlera également avec vous. Si vous voulez bien, on va commencer sur la partie économique. Donc avec vous, Arnaud de Rouget, cette situation sur les marchés, on se dit toujours, quand on est gérant, hein, on essaye de prendre des repères et de se dire à quoi elle ressemble. Est-ce qu'elle ressemble à quelque chose, la crise que nous vivons aujourd'hui sur les marchés ?
Elle ressemble à beaucoup d'autres crises. Elle est peut-être plus intense et surtout elle est plus longue, parce que malheureusement, elle est entre les mains de politiques plus que de gens qui s'occupent d'économie, et que les politiques parlent beaucoup mais agissent peu ou agissent lentement. L'avantage avec les politiques, c'est qu'on sait qu'ils ont les moyens d'arriver au bout de leur peine, mais ils ne prennent peut-être pas en compte les préoccupations des entreprises qui sont les acteurs importants de l'économie. Donc c'est une crise qui ressemble aux autres. C'est comme un enfant quand il a 40 de fièvre. Bon, avoir de la fièvre, c'est une chose qui existe et les fièvres se ressemblent, mais les causes ne sont pas toujours les mêmes. Là, c'est vrai, pardon, les causes sont un peu spécifiques parce que les histoires de dette sont quand même ce qui l'emporte aujourd'hui. À cela s'ajoute le risque d'une décélération de la croissance. Récession, c'est peut-être un peu vite dit, même si on commence à avoir des chiffres négatifs dans les croissances de PIB. Mais tout cela montre en tout cas une très grande incertitude. Et j'espère que ces messieurs auront des nouvelles rassurantes. Important, me semble-t-il, c'est que, puisqu'on parle d'économie et de bourse, celui qui aujourd'hui pense que tout est foutu et que les banques françaises vont déposer leur bilan, il vaut mieux qu'ils ne fassent pas de bourse. C'est vrai. Personnellement, je pense qu'on va sortir de la crise. Peut-être un peu plus, ça peut prendre peut-être un peu plus de temps que prévu, mais on se sortira de la crise.
Alors on pourrait dire du côté des investisseurs, hein, quand on parlait de 2011, de cette année 2011, on a vu d'ailleurs le début d'année hein, de 2011, on était reparti. On avait d'ailleurs sur le plan macroéconomique un début de reprise, et puis ça a été étouffé très rapidement. Mais les investisseurs eux-mêmes étaient en début d'année pas euphoriques, mais ils avaient repris confiance.
Oui. Mmh. Mais il y a une chose que je regarde depuis les dernières crises qu'on a eues. Les graphiques d'évolution des cours des actions en bourse, tout particulièrement les grandes, mais c'était vrai aussi de certaines petites ou moyennes capitalisations, commençaient à ressembler à une trajectoire de fusée. Et c'est vrai que quand vous avez une performance qui monte presque à la verticale, en dehors du cas de l'OPA, où la verticale se justifie par la différence de prix, il y a quelque chose de pas très sain. Parce que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, c'est un truisme que de le répéter. Mais en revanche, vous regardez 2007, les courbes sont très souvent comme ça. Vous regardez 2010, début 2011, beaucoup de courbes sont très verticales. Et on se dit, comment est-ce qu'on peut ajouter du 15% ou du 20% de croissance alors que la croissance économique est à 2%? C'est l'exemple type, c'était General Electric qui tous les ans sortait une croissance qui était 7 ou 8 fois celle de l'économie américaine. Il y a un moment où ça doit s'arrêter. Ou alors, c'est que vous faites des gains de productivité tellement considérables que vous éliminez toutes les forces de travail, vous éliminez... Bon, ça peut se tenir quelques années, mais pas 10 ans ou 15 ans.
Ce qui se passe sur les taux, un domaine que vous connaissez bien aussi, quand on voit, on sait sur les marchés, entre les marchés actions, ce que nous disent les marchés actions, ce que nous disent les marchés de taux, quand on voit le niveau des taux, on pourrait dire que la récession, elle va forcément arriver. Comment on a cette lecture aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression qu'on est dans un marché très perturbé et qu'on a du mal à se fier à des choses concrètes, puisque même sur les taux, on a vu quand les États-Unis ont été dégradés, ce qui s'est passé après n'est pas du tout ce qui était prévu.
On ne peut pas se lancer dans une discussion sur les agences de notation, mais ça mériterait vraiment un encart spécial, j'allais dire, parce que c'est très intéressant le fait que la dégradation de la note des États-Unis ne se soit absolument pas traduite par une dégradation des conditions d'émission. On entend d'ailleurs, à sujet de ces conditions d'émission, des âneries monumentales. Encore hier, je crois, l'Espagne a émis à 7%, et on explique que l'Espagne ne peut pas tenir avec un taux à 7%. Mais quand l'Espagne émet à 7% 3 milliards, ils ont un endettement qui est de l'ordre de, je crois, 1200 milliards, quelque chose comme ça, il est évident que ce n'est pas ces 1200 milliards qui sont à 7%. Donc, si le phénomène dure un an, il est complètement supportable par l'économie espagnole. Évidemment, si vous multipliez 1200 milliards par 7, là, ça ne tient plus la route. Il faut 84 milliards tous les ans pour rembourser. Mais c'est absolument pas le cas. Le fait que sur le marché secondaire, la dette de la Grèce se traite à 24%, les Grecs n'ont jamais emprunté à 24%. Ça veut dire quand même que les Grecs vont avoir du mal à renouveler parce que la prochaine fois qu'ils émettraient, on l'a vu hier avec la France a émis plus cher que la dernière fois. Mais il ne faut pas généraliser le taux instantané à l'ensemble de l'encours de la dette. Il y a des questions de flux et de stock, mais ça, c'est encore une notion de l'économie. Je dis souvent que les Français sont malheureusement mal informés en matière économique. Et quand on voit la qualité des livres d'économie dans l'enseignement secondaire, on se pose plus de questions, on sait pourquoi. C'est vrai que la culture économique permettrait d'éviter bien des erreurs de jugement et de diminuer le côté panique. Qu'on voit dans un certain nombre de médias et dans le langage de certains politiques qui n'ont pas de culture économique, malheureusement.
Daniel Harari, sur ce contexte économique qu'on a rappelé, vous dirigez donc la société Lectra. Elle est présente sur plusieurs marchés, bien sûr, sur de nombreux marchés à l'international. Comment vous vivez ce qui se passe dans la zone euro aujourd'hui? Ça vous inquiète? Vous vous dites il faut qu'on s'adapte. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, finalement, de cette... Est-ce que vous avez peur, comme certains Français?
Alors, si je commence par ce qui m'inquiète le plus, c'est plutôt l'état d'esprit général, le fait que la majorité des acteurs, notamment les dirigeants de nos clients, se posent des questions. Et donc, en fait, ils ont plus peur qu'ils n'ont vraiment de difficultés réelles. On est présent dans le monde entier. Quand il y a des nouvelles comme celles qui interviennent en ce moment, on s'aperçoit que dans le monde entier, nos commandes sont divisées par 2, par 3, par 4 pendant quelques jours, quelques semaines. Maintenant, si on se met en perspective sur le moyen terme, en fait, rien dans la vie de nos clients n'a vraiment changé. On ne constate pas vraiment dans l'économie réelle d'impact significatif, peut-être des baisses de 1, 2, 3%, des fluctuations, des marchés qui marchent mieux que d'autres, la Chine, le Brésil. On peut voir aussi que les deux dernières années, on a triplé nos ventes dans l'automobile. Triplé en 2 ans, lorsqu'on est dans une situation où on peut penser que c'est difficile, ça peut paraître extraordinaire. Donc je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à l'information au quotidien, mais voir plus loin, voir au-delà.
Pierre-Emmanuel Tétaz, alors dans votre domaine de dématérialisation, on disait gestion de paye, trajet, etc. Vous êtes une entreprise avec beaucoup d'innovation, beaucoup de croissance. Comment vous aussi vous voyez cette situation? On pourrait dire, on a tendance à, quand on parle d'entreprise vraiment technologique, on dit de toute façon elles sont un peu en dehors, mais le contexte quand même peut être perturbant.
Le contexte, on ne peut jamais complètement s'affranchir du contexte. C'est vrai que notre métier de base, donc, c'est effectivement de vendre des solutions de gestion des notes de frais sur Internet. Alors on peut s'interroger en période de crise et se dire les gens ne voyagent plus. C'est vrai qu'ils voyagent moins, ils voyagent différemment. Maintenant, objectivement, quand on regarde les transactions, donc les documents qui sont processés par nos outils, on est quand même sur une tendance ascendante. Alors il y a eu une énorme cassure en 2009 où effectivement tout le monde après la fin 2008 a eu peur et a mis debout le pied sur le frein. Je crois que les entreprises aujourd'hui, elles se rendent compte qu'elles ne peuvent pas non plus empêcher les gens de voyager. Donc elles voyagent, j'irais, dans des conditions plus économiques. Mais si on regarde la fréquence des déplacements et le nombre de déplacements, on est sur une tendance quand même ascendante, hein, puisque effectivement, il faut quand même rencontrer ses clients, ses partenaires, où qu'ils soient.
pour vous, donc, il y a eu plutôt la conquête de parts de marché, la conquête de clients sur la période.
On vient de publier les chiffres l'année dernière. Le chiffre d'affaires, il a cru de 20%. Donc c'est lié à une politique d'innovation, c'est lié à la diversification géographique, mais c'est aussi lié au fait qu'on est sur un marché qui est quand même encore extrêmement sous-pénétré. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des logiciels de bureautique ou du papier pour gérer leurs notes de frais et pas des systèmes informatisés, donc on a encore pas mal de chemin à faire devant nous, même si il faut être prudent, parce qu'effectivement, on peut pas, comme vous le soulignez, monsieur Harari, il y a beaucoup de psychologie là-dedans, et donc effectivement, même si on est sur des petits projets, nos projets n'ont rien à voir avec des projets d'infrastructure ou d'investissement, il y a souvent la tendance à se dire on verra demain, on va attendre et à repousser des décisions de démarrage de projet ou d'investissement.
Mmh. Y compris donc alors qu'on peut peut-être faire des économies, peut-être qu'on peut trouver avec des solutions.
Nous, on est plutôt sur des solutions effectivement qui permettent de générer des économies sur les processus de gestion. Donc on va dire qu'on a un profil qui est plutôt adapté aux périodes un petit peu chaotiques que l'on vit. Indépendamment de ça, on reste dans la sphère informatique et donc on a quand même des budgets informatiques qui globalement sont sous pression, même si les investissements informatiques ils se maintiennent. Hein. Il y a des chiffres qui ont été publiés récemment qui montrent qu'ils sont quand même toujours en croissance, mais je crois qu'il y a quand même une dynamique forte et des pressions sur les prix qui sont auxquelles on n'échappe pas comme tous les fournisseurs informatiques.
On parlait d'innovation, ça veut dire qu'effectivement dans ces périodes-là, on continue quand même cette partie-là parce qu'on sait que c'est à la fois le cœur et en même temps on peut être aussi tenté de dire réduire un peu cette partie-là.
Non, je crois que ça c'est un pari à court terme, mais effectivement quand on regarde l'historique de Concur a été en l'an 2000 le premier à lancer des notes de frais sur ce qu'on appelle le cloud, le SaaS, hein, donc des systèmes auxquels on accède par Internet, le premier à combiner un système de réservation en ligne et une solution de notes de frais, le premier à sortir une solution mobile, hein, donc moi mes notes de frais je les fais sur mon iPhone, je crois qu'il y a une dynamique d'innovation et c'est nécessaire, je crois que c'est effectivement ce qu'on retrouve et je crois que c'est le meilleur antidote à la crise, hein. C'est la capacité à innover et à garder une certaine dynamique.